Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Guillaume Ménard, Cédric Fuentes, Aliette Ovine, Arjuna Andrade et Léa Sabourin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième jour de notre série consacrée à l'économie de la rareté. Après avoir exploré hier l'univers du luxe, où ce qui est rare est signe de prestige, et avant de nous pencher demain et jeudi sur l'épuisement des ressources et sur l'avenir de notre société d'abondance, c'est le concept de rareté dans la théorie économique qui va nous occuper aujourd'hui. Toute aventure humaine, au moins jusqu'ici, est une lutte acharnée contre la rareté. Ce sont les mots de Jean-Paul Sartre dans La critique de la raison dialectique, publiée en 1960. Comment passer en effet de la rareté à l'abondance ? Voilà un problème économique qui a interpellé les plus grands penseurs, d'Adam Smith à Keynes en passant par Valras. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour parler des théories de la rareté, nous accueillons autour de la table André Orléans, directeur de recherche à l'EHESS et auteur de L'Empire de la Valeur, refonder l'économie, publié au Seuil il y a quelques années. Avec nous également Michel Keil, professeur de philosophie, co-directeur de la revue L'Homme et la Société et auteur avec Richard Sobel de cet article « Y a-t-il une économie sartrienne ?» En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. André Orléans et Michel Keil, bonjour.
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 Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer avec vous, André Orléans. Est-ce que l'on peut dire, pour commencer, que la rareté, c'est finalement le premier problème, le problème fondamental que l'économie cherche à résoudre ?
Oui, je crois qu'on peut dire ça, avec ce codicille de distinguer peut-être entre deux formes de rareté. Une rareté qu'on peut appeler rareté absolue, qui serait la rareté des ressources naturelles non reproductibles, dont vous allez d'ailleurs parler, et donc qui est un premier sujet. Et deuxième sujet, qui est vraiment le sujet des économistes, parce que le premier, celui de la rareté absolue, en fait, ils sont très mal à l'aise pour le traiter. Le fait qu'il y a d'épuisement des ressources est en fait un problème plutôt nouveau,
qui n'a pas été perçu. Et ça remet en question la croissance, par exemple.
Qui met en question beaucoup de choses, et qui est peu traité, en fait, peu incorporé au corpus théorique. La question qui est vraiment intéressante, c'est plutôt une rareté relative. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait que pour produire des marchandises, il faut de l'effort, il faut du travail, et que ça demande justement du travail, et que cette capacité à produire est limitée. Mmh. Et donc il y a des barrières à la production, et donc par rapport aux besoins, on n'arrive pas à produire de manière satisfaisante. C'est ça l'idée. Et cette rareté, on peut la conceptualiser par l'idée qui est très importante chez les économistes à partir des classiques, qui est l'idée de rendement décroissant. Les rendements décroissants, ça veut dire que plus vous défrichez des terres, plus vous occupez des terres pour produire pour la population, eh bien moins ces terres sont productives. Et donc il y a une espèce de barrière qui s'impose aux populations et aux sociétés du fait de cette décroissance de la productivité.
Mais alors ce qu'on va voir au cours de cette émission, André Orléans, c'est que pour d'autres penseurs, des anthropologues, des sociologues, la rareté n'est pas première, c'est une conséquence de la rivalité entre les hommes. Donc on voit qu'il y a beaucoup de débats théoriques autour de ce concept de la rareté.
Absolument, oui, c'est tout à fait. C'est-à-dire que la rareté, c'est un concept de l'économie classique et néoclassique, et donc qui s'est construite autour de ça. Et il y a des débats sur cette notion de rareté. C'est-à-dire que, pour le dire le plus simplement possible, dans la pensée dominante, disons classique et néoclassique, la rareté est quelque chose de naturel. Elle vient de l'écart objectif qui existerait entre les besoins et les capacités productives. Et donc, ce serait au fond dans la nature des choses qu'il y ait de la rareté. Et ce que peut montrer un regard plus vaste, qui ne s'occupe pas simplement des sociétés capitalistes dans lesquelles effectivement cette rareté joue, nous montre que c'est plus compliqué, que le rapport aux objets à la nature peut être différent. Et donc, l'idée de rareté, au fond, on ne la retrouve pas dans d'autres sociétés. C'est ça qui est effectivement très intéressant.
Alors, on va voir effectivement comment cette vision de la valeur va évoluer au cours de l'histoire. On verra notamment que Sartre propose encore une autre approche de la rareté avec vous, Michel Caille. Mais d'abord, commençons avec cette vision de la rareté chez les économistes classiques. Est-ce que c'est la rareté qui crée la valeur chez les classiques, alors même que ce que l'on entend souvent, c'est que chez ces économistes-là, c'est plutôt le travail qui crée la valeur, André Orléans.
Oui, chez les classiques, c'est le travail qui est la notion de valeur est liée au travail. Mais vous voyez que ça fait partie du même corpus, de la même construction théorique, parce que le travail, c'est l'effort, c'est rien d'autre qu'une mesure de l'effort qu'il faut, que les sociétés doivent faire pour répondre aux besoins. Donc c'est pas effectivement, elle n'entre pas chez les classiques dans la définition de la valeur qui est le travail, mais en fait c'est le même horizon théorique. Le travail, c'est ce qui permet de lutter, de maîtriser la nature et donc de produire des objets et donc de lutter contre la rareté.
Donc par exemple, Adam Smith et Ricardo, par exemple, la rareté c'est la condition pour que les hommes se mettent au travail. Et Ricardo donne par exemple l'exemple de l'œuvre d'art.
Oui. C'est ça, oui, chez Ricardo, en effet, il y a cette idée que dans la valeur des objets, il faut donc un tout petit peu expliquer, dans la valeur des objets, en fait, il explique qu'il y a deux conditions. Il y a une valeur qui est liée à la rareté absolue, cette fois-ci, celle justement dont il va très peu parler. C'est celle des œuvres d'art, c'est ce qu'il prend, les vins exquis, etc., des choses exceptionnelles. Donc là, il dit effectivement, il y a un phénomène de rareté, mais ça n'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est les marchandises reproductibles. Et les marchandises reproductibles, leur valeur, c'est le travail. Donc c'est essentiellement, chez Ricardo, c'est essentiellement le travail. Mais chez Ricardo, il y a aussi cette idée que, très importante, c'est que les terres sont de moins en moins fertiles. Et donc que la condition de la production des marchandises va devenir de plus en plus difficile parce qu'on va être obligé d'utiliser des terres avec des rendements de plus en plus faibles. Et ça, donc, c'est une forme de la rareté, hein, qui sont la rareté des terres et qui conduisent à ce qu'il appelle l'état stationnaire. C'est-à-dire, en fait, du fait de l'augmentation du prix du blé à cause de la productivité trop faible des nouvelles terres, en fait, là, le surplus va être plutôt approprié par les propriétaires fonciers, et il y aura très peu de profit qui va rester au capital. Et donc, il y a une barrière dans la production au 19e siècle.
Et il n'est pas le premier à s'en inquiéter de cette diminution des rendements parmi les classiques. C'est peut-être Malthus qui s'est le plus inquiété des conséquences de la rareté. Il publie son essai sur le principe de population à la toute fin du 18e siècle.
Le modèle malthusien, c'est sur deux idées. La première idée, c'est de dire la production se fait en combinant le travail et un facteur. Donc en gros, vous êtes dans une économie agricole, essentiellement, et ce qui était le cas. Hein. Il y avait quelques artisans, mais enfin l'essentiel, c'était l'agriculture. Vous avez des gens qui travaillent sur un facteur fixe qui est la terre, voilà. Et la terre, elle est fixe, vous voyez, elle est en quantité fixe. Et alors maintenant, vous pouvez dire, je peux augmenter ce facteur en colonisant et en défrichant, etc. Mais là, on se considère qu'on est dans un monde où le stock de terre est donné, et puis il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur cette terre. Donc évidemment, plus de gens vont travailler sur la terre, plus on est dans un monde dans lequel il va y avoir congestion, c'est-à-dire que plus on est nombreux à travailler la même terre, plus le rendement par tête va être faible, voilà.
L'économiste Philippe Aguillon, lors d'un cours au Collège de France diffusé sur France Culture le 3 octobre 2016, la conclusion de Malthus face à cette perspective d'une congestion, c'est qu'il faut absolument contrôler les naissances, André Orléans.
C'est ça. Donc chez Malthus, c'est la fameuse loi très connue qui est que les populations augmentent de manière géométrique, en doublant par exemple tous les 25 ans, alors que la nourriture qui est produite augmente de manière arithmétique, c'est en augmentant d'un à un. Et donc évidemment, l'écart va être de plus en plus grand. Donc en effet, il y a une prise en compte de ce même facteur dont on parle depuis le départ, de cette rareté relative des facteurs de production, et qui chez Malthus, alors chez Ricardo, ça donne cette idée d'état stationnaire, et chez les classiques, donc ce n'est pas une catastrophe, il y a une espèce d'équilibre, si vous voulez, une équilibre de croissance très faible, parce que il y a plus de profit étant donné la faible productivité de la terre, mais chez Malthus, lui, ça va beaucoup plus loin, c'est la catastrophe, c'est la famine, c'est la misère.
Il va jusqu'à affirmer affirmé qu'il ne faut pas aider les pauvres car ça les encouragerait à se reproduire. Et même à l'époque, ça faisait scandale.
Exactement. Donc c'est un véritable, en effet, c'est bien beaucoup plus, d'une certaine manière, pessimiste chez Malthus en raison de sa loi de population. Oui.
Et alors au XIXe siècle, les économistes néoclassiques, cette fois, vont apporter une nouvelle vision. André Orléans, selon eux, c'est l'utilité qui crée la valeur et non plus le travail comme chez les classiques. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'est le concept d'utilité et aussi le concept qui va avec chez ces économistes, qui est le concept d'utilité marginale?
Alors, donc, en effet, il y a une transformation. Il faut voir donc les classiques, hein, c'est les grandes dates, hein, c'est Ricardo, 1816, donc c'est le John Stuart Mill, c'est le 19e siècle, la moitié du 19e siècle. Et les néoclassiques, la révolution marginaliste dont vous parlez, c'est 1870. Donc, il faut bien avoir ça en tête. On est sorti de ce que Aguillon racontait tout à l'heure d'économie à prépondérance agricole. On est rentré dans le capitalisme, hein, le capital de Karl Marx, c'est 1867. Donc on est dans une autre configuration socio-politique. Et à ce moment-là, oui, naît une nouvelle théorie de la valeur qui dit que la valeur des biens, ce n'est pas la quantité de travail qu'il faut pour les produire, mais c'est l'utilité qu'ils fournissent aux individus. Et donc chacun, quand vous achetez, c'est tout à fait simple et intuitif, quand vous achetez un bien, et vous achetez parce qu'il est utile. Plus il est utile, plus il aura de valeur. C'est ça l'idée. Mmh. Et il y a un concept lié, c'est celui auquel vous me proposiez de répondre.
C'est pour ça qu'on parle des marginalistes.
On les appelle marginalistes. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous avez un choix à faire, vous allez avoir un choix à faire entre... On va vous proposer, par exemple, d'acheter, je sais pas, une chaise de plus, excusez l'exemple un peu idiot. Et donc, l'utilité, ce qui va compter, c'est est-ce que vous prenez cette chaise en plus ou non? Et c'est donc pas l'utilité de n'importe quelle chaise, c'est l'utilité de la dernière chaise. Parce que l'idée des marginalistes, c'est que l'utilité que vous ressentez diminue au fur et à mesure que vous absorbez, vous consommez le produit, hein, le verre d'eau. Au départ, vous avez très soif, l'utilité est très grande. Et puis, si vous avez bu un litre, vous n'avez plus soif, l'utilité du dernier verre est très faible. Donc, c'est cette idée que c'est l'utilité, en fait, c'est l'utilité du dernier bien acheté qu'on appelle l'utilité marginale.
Et alors, chez Léon Valras, qui est un économiste néoclassique parmi les premiers, c'est donc l'utilité, mais aussi la rareté qui crée la valeur. Et en même temps, ce qui est intéressant chez Valras, c'est que la rareté n'est pas un problème, finalement, dans son système de l'équilibre général.
Mais oui, si vous voulez, en effet... Alors, chez Valras, il conjugue en fait deux éléments pour définir la valeur d'un bien. Il dit la valeur, en effet, c'est la rareté. Et la rareté, c'est deux choses. C'est l'utilité plus le fait que la quantité de biens en question est limitée. Il veut simplement éviter les biens en quantité illimitée qui sont utiles, comme par exemple l'air. L'air n'a pas de prix, n'est pas échangeable, etc. Donc, ça ne l'intéresse pas. Donc, il prend que ceux qui sont en quantité limitée. On peut dire en effet que... À partir de là, si vous voulez, tout se développe l'économie moderne, c'est-à-dire une économie qui va essayer d'adapter des biens qui sont rares en fonction des finalités, essayer de les utiliser au mieux. Donc cette idée d'utilité va conduire à l'idée d'arbitrage, au fait que je vais essayer d'acheter plus de ci ou moins de ça, et donc au fond à l'idée de calcul économique. C'est l'idée de calcul économique qui devient centrale, ce calcul d'utilité où on essaye de dire, par exemple, là, est-ce qu'il me reste tant d'argent, est-ce que je vais acheter plutôt ce bien-là plutôt que l'autre? Eh bien, c'est en fonction de l'utilité marginale de ces biens. Donc,
c'est cette idée de substituabilité. C'est l'idée qu'un bien désiré pourra toujours être remplacé par un autre bien, et ça se fera dans une forme d'équilibre qui est l'équilibre que propose Valras.
Exactement. Donc, c'est ce type de calcul économique qui est produit par la révolution marginaliste.
Et ce qui est étonnant, André Orléans, c'est que dans le modèle de Valras, on consomme pour soi et non pas pour montrer aux autres que l'on consomme tel ou tel bien. Il n'y a cette volonté d'afficher une consommation qui donnerait un statut social, par
tout
exemple.
Tout à fait. C'est absolument interdit, d'une certaine manière. Dans le modèle, c'est une des caractéristiques du modèle, c'est que on peut dire que chaque consommateur est un consommateur atomisé, qui ne s'occupe que de son utilité. Donc, il n'est pas contaminé par les autres. C'est pas parce que vous aimez telle voiture, telle télévision ou je ne sais quoi, que moi, mon utilité va changer. Mon utilité, c'est vraiment dans une espèce de face-à-face de l'individu par rapport à l'objet, uniquement. Et un face-à-face vraiment individuel, privé, subjectif entre l'individu et l'objet. Je m'occupe pas de l'autre. Et ça résonne très fortement avec toute la dimension individualisme, du libéralisme. C'est des individus souverains, consommateurs, qui chacun juge au mieux des besoins qu'ils ont et consomment en conséquence. Donc il n'y a pas du tout de phénomène de mimétisme, ni de contagion, ni de comparaison.
Et on va voir que quelqu'un comme Thorstein Veblen, le sociologue, va justement remettre en question cette vision. Mais d'abord, vous l'avez dit, André Orléans, à la fin du 19e siècle, le capitalisme est installé, la révolution industrielle suit son cours. On va avancer un petit peu dans le temps. En 1930, John Maynard Keynes annonce la fin de la rareté.
Dans 100 ans, sauf guerre majeure ou très forte croissance démographique, le problème économique aura peut-être été résolu, ou au moins sa solution sera peut-être en vue. Autant dire que si nous regardons loin dans l'avenir, il n'est pas le problème permanent de l'espèce humaine. Si nous regardons le passé et non l'avenir, nous constatons que le problème économique, la lutte pour la subsistance, a toujours été le problème le plus pressant, le premier problème de l'espèce humaine. Nous avons donc été expressément façonnés par l'évolution naturelle, avec toutes nos pulsions et nos instincts les plus profonds, pour œuvrer à la solution du problème économique. S'il est résolu, l'humanité sera privée de son objectif traditionnel. Pour la première fois, l'homme sera confronté à son vrai problème permanent. Que faire de sa liberté arrachée à l'urgence économique ? Avec un peu d'expérience, j'en suis sûr, nous utiliserons l'abondance nouvelle de la nature tout autrement que le font les riches aujourd'hui. Et notre projet de vie sera très différent du leur.
Un extrait de la lettre à nos petits-enfants de Keynes, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Dans cet essai, Keynes prévoit, je cite, que le niveau de vie dans 100 ans sera 4 à 8 fois supérieur à celui d'aujourd'hui. Et c'est une prévision qui s'est avérée vraie, André Orléans.
Oui, tout à fait, ça s'est avéré. C'est même plutôt autour de 8 hein, pour tous les pays en développés.
Donc, avant même les 100 ans, puisqu'on est en 2019.
Exactement, avant même les 100 ans. Hein, ce qui fait une moyenne de croissance sur 100 ans de 2,1%. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce que comment il a pu faire cette prévision est quelque chose qui est l'objet de beaucoup d'admiration aujourd'hui. Et en particulier, il l'a fait en 1930, c'est-à-dire une période où le pessimisme règne. Et donc l'idée, quand même, que le capitalisme allait pouvoir l'emporter, en quelque sorte, surmonter la crise de 29, n'était pas du tout évidente. Et alors, ce qui est très intéressant chez Keynes, c'est que justement, il montre, par rapport à la question de la rareté, on voit que dans sa définition du capitalisme, la question de la rareté est centrale. En fait, le capitalisme, c'est ce moment de l'histoire qui permet de résoudre le problème économique, comme on l'a dit, c'est-à-dire celui de la subsistance, c'est-à-dire celui de la rareté. Et on va arriver dans une autre phase, et c'est ça dont il parle dans cette lettre aux petits-enfants, à partir de là, c'est ce qu'il pensait à partir de 2030, qui sera un âge d'abondance. Et donc on passerait justement dans une société d'abondance.
Et où le capitalisme n'existerait plus. Dans sa vision, c'est un état transitoire que cet état capitalistique.
Exactement, c'est ça qui est très intéressant, et c'est pour ça que je pense qu'on peut comparer d'une certaine manière Keynes à Marx, dans la mesure où pour tous les deux, le capitalisme ne fait partie plutôt de la préhistoire de l'humanité. C'est avant que l'homme arrive à se libérer en quelque sorte de la contrainte naturelle, à la fois chez Marx et chez Keynes, pour arriver dans une société d'abondance qui est la vraie société. Et il y a une deuxième idée qui est très forte chez les deux, c'est que c'est un état tout à fait déplorable que le capitalisme, pour des raisons évidemment très différentes, mais Keynes, justement, dans ce texte, n'arrête pas de dire que cette époque où on a dû lutter pour la subsistance a fait qu'on a dû avoir des réflexes, des instincts tout à fait négatifs, par exemple celui d'aimer l'argent, par exemple celui de se projeter, de ne pas pouvoir jouir du présent parce qu'on préfère le futur. Donc pour lui, le capitalisme a été un moment pénible, et il prévoit que il y aura beaucoup de désagréments à essayer de passer dans une société d'abondance, tellement on est mal formé désormais par le capitalisme, tellement nos instincts sont mal faits.
Donc c'est ça qui est étonnant, André Alléan, pardon de vous interrompre, c'est que l'avènement de cet âge d'abondance, pour Keynes, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle finalement.
Oui, à court terme, c'est pas une bonne nouvelle, c'est-à-dire il dit, oui, les individus, ils vont pas réussir, ils n'arriveront pas à s'adapter parce que on a été tellement pris par le travail, des choses aliénantes que on ne sait plus profiter véritablement de la vie. Évidemment, il a une notion très très élitiste hein, de ce qu'est la vie civilisée. Mais dans cette prévision, il faut quand même rappeler quelque chose où il y a une grosse erreur et il y a un problème, c'est que non, c'est vrai que le niveau de vie a été multiplié par 8, mais il prévoit que ça conduira à une diminution drastique du temps de travail.
À 3 heures par jour.
3 heures par jour, exactement. Et ça, on voit qu'on n'y est pas du tout. Donc il y a quelque chose qu'il a manqué dans la compréhension du capitalisme, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas du tout cette corrélation à laquelle on pourrait s'attendre entre l'augmentation de la prospérité, de la productivité et la baisse du temps de travail.
Et alors justement, comment expliquer que la durée du temps de travail, que la durée du travail est si peu diminuée en Orléans, contrairement à ce que prévoyait Keynes.
Je pense qu'il y a plein, j'en vois au moins deux qui me sautent aux yeux. La première, c'est que dans le capitalisme, contrairement à l'idée un peu idyllique qui peut s'en faire, c'est pas les besoins qui sont véritablement le moteur de l'affaire, mais c'est le profit. Et donc, il y a une course au profit qui est beaucoup plus importante et qui motive le capital et qui conduit à ce que on soit contraint de travailler. Et la deuxième qui est plus en rapport avec notre sujet aujourd'hui, c'est que il ne s'est pas rendu compte que l'attrait pour les objets a cru de manière aussi grande que la croissance elle-même.
Plus on a, plus on veut avoir.
Voilà, c'est ça. Donc il y avait un peu l'idée, il n'était pas stupide, Keynes, hein, évidemment. Donc il faisait bien la différence qu'il y avait entre des besoins primaires et des besoins secondaires, des besoins fondamentaux et des besoins plus artificiels. Mais néanmoins, au fond, il n'a pas retenu cette différence et il pensait que les besoins seraient satisfaits. Ce qu'il ne voit pas et ce que nous voyons bien dans nos sociétés, c'est que nous sommes accros. Aux objets de manière extrêmement forte et qu'il y a une course aux objets au niveau de vie au smartphone 3G, 4G, etc. Donc voilà un aspect qui n'a pas du tout pris en compte.
Et alors si Keynes prévoit lui l'avènement d'une société d'abondance dans le futur, pour l'anthropologue Marshall Salins, elle a déjà existé dans le passé, au paléolithique à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Marshall Salins qui était passé dans les studios de France Culture le 5 février 2011. On l'écoute.
The paradoxe can be explained.
On peut expliquer ce paradoxe facilement par deux choses. La première, c'est que
les données sur ces gens-là,
c'est qu'ils ne travaillaient pas beaucoup.
They worked 2 or 3 hours a day.
Ils travaillaient 2-3 heures par jour, au plus.
And it seems there's an inverse relationship.
Il y a une relation inverse
the amount of work that people do and the
le travail fourni
and the complexity of their
et la complexité de leur économie.
So the people with the supposed subsistence economy,
les gens qui sont censément dans une économie de subsistance, les chasseurs-cueilleurs que nous connaissons ne travaillaient pas de très longues heures. En fait, ils dormaient beaucoup plus dans la journée que qui que ce soit depuis.
André Orléans, en quoi consiste cette société d'abondance décrite par Marshall Salins, qui a travaillé entre autres sur les aborigènes d'Australie?
Donc c'est vraiment très intéressant, ça rejoint le début de notre propos, c'est-à-dire de montrer que ce rapport de rareté est en fait un rapport constitutif des sociétés marchandes et des sociétés capitalistes, et qu'il y a d'autres sociétés dans lesquelles il n'existe pas. Et c'est la grande force de ce livre de Marshall Salins, de montrer que dans ces populations, ils sont pas du tout soumis à la loi de la rareté. Alors c'est quoi ces populations? C'est des populations de chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des nomades, c'est-à-dire au fond le premier stade avant l'agriculture du développement, donc on est au paléolithique, donc des sociétés qui sont pas du tout associées à des sociétés d'abondance, et évidemment des sociétés dans lesquelles les niveaux de vie sont extrêmement modestes. Mais ce qui est frappant dans ces sociétés, c'est que ils ont peu de besoins. c'est que ils n'ont pas comme par comparaison avec nos sociétés, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire ils ne sont pas leur on pourrait dire la chose suivante, c'est-à-dire leur statut social n'est pas lié à l'accumulation d'objets comme chez nous.
Que ça a été construit plus tard.
C'est ça, c'est vraiment typique au moins du capitalisme d'avoir fait ce lien entre le prestige et l'accumulation d'objets, avoir les meilleures voitures, les meilleures télé, avoir le smartphone le mieux, les chaussures, enfin, etc., etc.
Au contraire, ils sont nomades, ces populations, donc l'accumulation d'objets est finalement négative.
C'est ça. Donc c'est ce qu'il dit. Donc d'une part, ils désirent peu, et comme ils sont nomades, en effet, il y a une contradiction entre la mobilité, qui est pour eux une valeur absolument centrale, et détenir des objets, parce que c'est lourd, etc. Donc en fait, les objets, c'est plutôt encombrant, c'est plutôt ennuyeux. Et donc, à partir de là, en fait, ils ont accès à des techniques primitives, mais qui suffit amplement à satisfaire leur désir d'objet, puisqu'on voit qu'il est faible. Et la même chose pour l'alimentation, la production de nourriture. En fait, ils travaillent très peu, de manière que c'est ce qu'expliquait Salins. Et donc, on est dans des sociétés d'abondance, et d'où l'idée de Salins que pour régler ce problème du rapport entre les besoins et les raretés, il y a deux choses. Soit, comme nous, on produit de plus en plus, mais en fait, on a de plus en plus besoin et on règle pas le problème. Soit, comme chez chasseurs-cueilleurs, en fait, on désire peu. Le fait d'avoir, de pas vouloir beaucoup. Et donc, qui fait que, il est conduit à dire, Salins, qu'en fait, la loi de la rareté, elle ne vaut que dans nos sociétés. Elle ne vaut pas dans la société des chasseurs-cueilleurs. C'est extrêmement fort comme réflexion. Je veux dire par là que, évidemment, on va pas prendre comme objet de futur et utopique de reconstruire une société de chasseurs-cueilleurs. C'est pas ça. Mais ça permet de bien comprendre que ce rapport, d'abord la centralité du rapport à l'objet, et comment il a été historiquement construit par le capitalisme d'une certaine manière, et que peut-être aujourd'hui où il y a les contraintes écologiques, peut-être il faut s'en sortir.
C'est une nouvelle vision de la rareté qui est intéressante, mais en même temps, est-ce qu'on peut réduire le désir d'objet qui caractérise nos sociétés capitalistes à cette volonté justement d'avoir une certaine reconnaissance sociale? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres hypothèses qui expliquent ce désir d'objet?
Je pense d'abord que
notamment le confort, la question du confort.
Exactement. Mais mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas opposer les deux. Le confort et le prestige vont ensemble, en fait. Hein. Donc, ce qui me semble essentiel, c'est que ce mouvement du prestige me semble extrêmement important dans la dynamique de consommation. Et donc, on a là un moteur extraordinaire, très très puissant, de désir continuellement renouvelé sur des objets toujours différents, et on est dans un cercle vicieux extrêmement problématique.
On voit qu'il y a là deux visions qui s'affrontent, et je me tourne vers le philosophe peut-être, Michel Kyle, entre une vision qui consisterait justement à vouloir voir l'objet comme, enfin l'homme comme désirant de toute façon toujours plus d'objets, ou au contraire comme cette vision serait un construit social. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, justement ça tombe très bien que ce soit à propos de Marshall Salins, parce que, en fait, son inspiration est très proche de celle de Sartre. Il est très, très, lui-même utilise beaucoup de concepts sartriens. Dans son livre Au cœur des sociétés, raison utilitaire et raison culturelle, et ça, je lui fais allusion parce que ça a à voir avec la question que vous posez, il est constamment en train de se référer à la critique de la raison dialectique.
Que Sartre a donc publié en
1960. Et je suis désolé.
Je vous en prie.
Et donc, lorsqu'il parle de société d'abondance, comme disait André Orléans, évidemment, c'est pas parce qu'ils produisent beaucoup d'objets, mais c'est au contraire, comme la question que vous posez, c'est parce qu'ils en produisent peu. Et que donc, du même coup, la valeur culturelle dominante dans ces sociétés, c'est la sociabilité. Comme disait Illich, c'est la convivialité.
Et une valeur justement moment... que Keynes pourrait estimer perdue et que Keynes appelle de ses voeux dans cette future société d'abondance.
Tout à fait. Et je pense que, vous voyez, on pourrait même faire allusion aux récents mouvements sociaux, pas seulement les Gilets jaunes, mais le mouvement social sur la place de la République, etc., où on a bien vu que la valeur essentielle, c'était justement de pouvoir constituer une véritable sociabilité démocratique à travers l'échange et la discussion.
Eh bien, on va voir un petit peu plus en détail cette théorie de la valeur chez Sartre. On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Something of value. Mostly unseen. Is it a threat? It calls in your dreams. Something of value. They'll try to control. But it can't be taken. It sings in your soul. When whispers are daggers. Are the focus, but just keep on pushing. Bring hope to the hopeless. Something of value scares politicians, thugs, and kings. Keeps lifting you higher. Wind under the wings. Something of value. And it can't be purchased. Over the wall. Under the surface. Where rumors are flying. And fear fills the air. And you are the target.
Écoutez Something of Value d'Imperial Crown sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Et nous poursuivons notre discussion sur le concept de rareté avec André Orléans et Michel Keil. Alors avant d'en venir à la pensée de Sartre, il faut d'abord passer par le sociologue Thorstein Veblen. Car si l'économie marchande est fondée sur la rareté relative, comme vous l'avez expliqué André Orléans, comment cette rareté se perpétue-t-elle malgré l'accroissement des biens ? Eh bien la réponse est à aller chercher du côté de Veblen. Et c'est Raymond Aron qui en parle le mieux.
La classe de loisirs, ce sont les riches. Et ce sont les riches qui tirent leur fierté et leur prestige de ne rien faire. Rien faire leur donne une situation dans la vie. Et à partir de là, Veblen développe toute une symbolique, symbolique des mœurs, des coutumes, du vêtement, pour montrer que tout ce que font les riches a pour fonction de rivaliser les uns avec les autres et d'imposer à ceux qui n'appartiennent pas à ces classes de loisirs leur propre supériorité à eux qui ne sont pas obligés de travailler de leurs mains, à eux qui ne manient que des symboles abstraits, à eux qui sont les privilégiés et qui l'emportent sur les malheureux ou sur les gens ordinaires condamnés au travail. Alors la classe de loisirs, ce sont les riches, ceux qui ne travaillent pas et qui tirent à la fois leur fortune, leur prestige et leur puissance de ne pas travailler au moins de leurs mains et de ne manier que des symboles ou des autres hommes à leur service.
Raymond Aron dans l'émission Au carrefour des sciences de l'homme sur France Culture le 1er janvier 1970. Chez Veblen, c'est donc la rivalité pour le prestige qui crée la rareté et non l'inverse, André Orléans.
Oui, c'est en cela qu'il est extrêmement intéressant. Donc il écrit la classe de loisirs, c'est 1899, et il montre qu'en effet un des moteurs de la consommation, et de ce point de vue-là, il permet de résoudre les problèmes qu'on avait posés à l'instant à partir de Salines et autres, c'est servir, savoir pourquoi continuellement il y a une mécanique infernale de désir d'objet. Et il en donne une hypothèse extrêmement simple, c'est la question du prestige. C'est-à-dire que la consommation, elle est toujours, le plaisir est toujours relatif par rapport à autrui. On essaye d'être plus qu'autrui. Donc on n'est pas du tout dans la recherche de l'utilité pure.
Il va plus loin que l'utilité telle qu'elle était définie par Walras.
Absolument. Pour lui, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est la rivalité, c'est-à-dire produire des objets qui soient que les autres ne possèdent pas et de cette manière s'imposer aux autres. Et je prends une citation parce qu'elle résout d'une certaine manière de Veblen dans ce livre. On aura beau distribuer avec largesse, égalité, justice, jamais aucun accroissement de la richesse sociale n'approchera du point de rassasiement. Tant il est vrai que le désir de tout un chacun est de l'emporter sur tous les autres par l'accumulation des biens. Si, comme on l'a parfois soutenu, l'aiguillon de l'accumulation des biens était le besoin de moyens de subsistance ou de confort physique, alors on pourrait concevoir que les progrès de l'industrie satisfassent peu ou prou les besoins économiques collectifs. Mais du fait que la lutte est en réalité une course à l'estime, à la comparaison provocante, il n'est pas d'aboutissement possible.
Donc rien ne sert d'accroître les biens.
En fait, à la longue, en effet, il y a une espèce de paradoxe, parce que à chaque fois, chacun essaye de se distinguer d'autrui en consommant plus, mais finalement, cette consommation distinctive finit par se propager, et donc, à chaque fois, en rajouter. Mais le niveau de satisfaction, en effet, on peut dire, reste constant.
Et c'est une critique qu'on peut entendre aujourd'hui, André Orléans, la critique de la croissance, cette idée qu'il va falloir aujourd'hui encore, en 2019, continuer à consommer plus pour avoir de la croissance, alors que on se demande si c'est encore possible dans une planète finie.
Tout à fait. Donc là, on voit que, autant ce constat, au fond, au début du XXe siècle ne posait des problèmes moraux, mais ne posait pas de problèmes physiques. Aujourd'hui, on voit bien que ce mécanisme est un mécanisme infernal et qu'il faut le détruire. Donc, en effet.
Autre penseur de la rareté, venons-en à Jean-Paul Sartre. Je me tourne vers vous, Michel Kyle. Pour vous, la réflexion de Sartre sur la rareté pose la question de l'existence d'une économie sartrienne. C'est le titre de votre article. Y a-t-il une économie sartrienne? Pourquoi vous êtes-vous posé cette question, pardon?
Ah oui. C'est une question un peu provocatrice, évidemment, parce que même les gens qui sont des lecteurs attentifs de Sartre ne se sont pas, je crois pas, enfin, sauf quelques-uns, posé cette question. Et évidemment, les économistes, s'ils entendent cette question posée, ils vont réagir en disant qu'il ne fait pas partie de notre champ de discipline. Bon, néanmoins, je ferai le lien avec ce que disait André Orléans par rapport à votre question sur Veblen, parce que je crois que le point important dans l'analyse que fait Sartre de la rareté, c'est qu'il prend en compte ce que signalait aussi André Orléans en disant c'est un rapport constitutif de société capitaliste, c'est-à-dire qu'en fait, la rareté, elle est appréhendée, selon Sartre, dans les rapports sociaux, non pas dans le rapport de production. Parce que précisément, lui, si vous voulez, son parti pris philosophique fondamental, c'est l'antinaturalisme, et même, je préfère dire, l'anaturalisme. Et pour cela, j'en dirais peut-être deux mots si, pour expliquer, parce que sinon...
Il faudra effectivement expliquer un certain nombre de concepts, parce que c'est en effet assez compliqué. D'abord, peut-être qu'on peut expliquer que le concept de rareté chez Sartre, Michel Kyle, il est lié à la finitude du monde, mais pas seulement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, pas seulement. C'est que, en fait, le concept de rareté, il est appréhendé plus politiquement qu'économiquement, et que en fait la rareté, c'est une unité négative d'une multiplicité, donc on a toujours affaire à une multiplicité, jamais comme dans l'économie classique ou néoclassique à des individus atomisés, donc à un seul individu d'une certaine façon confronté à la nature et devant satisfaire ses besoins, donc toujours une multiplicité. Et la rareté, elle se reconnaît au fait que cette multiplicité, elle doit choisir quels sont ceux qui sont excédentaires.
Alors, expliquez-nous cela.
Vous allez voir, je n'ai pas besoin d'expliquer. Regardez notre société qui est une société où on produit énormément de biens. Il suffit de se promener dans Paris et dans d'autres villes équivalentes, on voit bien que notre société fait le choix des excédentaires. Ce sont les gens qu'on appelle les SDF. C'est-à-dire, finalement, on choisit parce que il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, une société fait le choix de ceux pour lesquels il n'y aura pas. Et ça, c'est un choix politique, en fait.
Et en amont de cela, Michel Kyle, peut-être qu'il faut rappeler la différence entre l'organique, c'est-à-dire le vivant, et l'inorganique, la oui, matérialité, qui explique cette finitude du monde. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport
oui,
à cela?
Oui, excellente question, si je puis me permettre, parce que là, ça permet de mettre en place l'idée de contre-finalité. Bon, je dis deux mots. Il y a, chez Sartre, il y a d'abord l'être et le néant, et il fait cette distinction entre l'être pour soi et l'être en soi. Et l'être pour soi, c'est la conscience, ou c'est encore, autre terme, la liberté. Donc c'est
l'être en soi, c'est l'être total.
Oui.
L'être pour soi, c'est l'être qui recherche en permanence sa totalité.
Alors, qui est en train de se projeter et qui recherche illusoirement.
Parce qu'il ne l'atteindra jamais.
Jamais, sa totalité, d'accord. Très très bien. Donc en fait, avec la critique de la raison dialectique, où là, Sartre organise une confrontation, moi je ne dis pas un ralliement, je dis une confrontation avec le marxisme, et à ce moment-là, l'être pour soi, ce qui était l'être pour soi dans l'être et le néant, devient la praxis.
Alors, comment est-ce qu'on peut définir la praxis?
La praxis, oui, c'est toujours, en fait, un projet de totalisation.
C'est l'action de l'homme pour sa survie.
Pas seulement, c'est-à-dire, c'est toujours une forme d'anticipation, mais peut être en cause la survie. Ça, c'est lorsque nous sommes au niveau de l'organisme. Où déjà, Sartre parle de totalisation, de projection.
Oui. Très simplement, c'est le fait que l'homme a besoin de se nourrir
oui,
pour
se nourrir,
continuer à perpétuer, à demeurer dans son être.
Absolument. Et en même temps, d'être toujours en relation. Parce que ça, c'est le point important, si vous permettez. Dans l'économie classique, on a affaire à un sujet qui appartient aussi à la philosophie classique, c'est-à-dire un sujet qui se définit par son intériorité et qui, donc, se trouve en face à face avec l'objet, comme deux entités distinctes, alors que avec Sartre, et là c'est l'influence de la phénoménologie, mais peu importe, ce qui va être défini comme la réalité, ce ne sont pas deux entités comme ça qui sont renfermées sur elles-mêmes, non.
C'est l'interaction.
C'est l'interaction, ce que disait André Orléans, c'est la relation. Finalement, on peut dire le sartrisme, auquel j'associe Simone de Beauvoir, parce qu'en fait, les deux pensées sont entremêlées, c'est un relationnisme, pas un relativisme, un relationnisme. Et donc, en fait, vous voyez, la rareté, c'est ce rapport, va naître du rapport à la matière.
Le fait que deux personnes désirent la même chose,
oui,
ce qui crée une rivalité.
Ce qui crée une rivalité, mais aussi le fait que une action, une activité entraîne une contre-finalité. L'exemple très simple dans la critique de la raison dialectique, ce sont les paysans chinois qui veulent conquérir des terres arables, donc qui retirent les plantations, etc. Et la contre-finalité, c'est l'inondation.
Oui, d'accord.
Ça entraîne, alors le processus est plus compliqué, mais vous voyez.
Donc cette contre-finalité ne vient pas forcément d'un autre homme.
Non. Non, c'est pour ça que vous voyez, là-dedans, finalité contre finalité, vous avez aussi bien explicité, bien mis en œuvre la relation. Et regardez, vous parliez d'écologie, la contre-finalité, elle est évidente. C'est que là, vous voyez, cette production soi-disant abondante, elle a pour effet d'appauvrir les ressources.
Mais alors, en quoi, Michel Kyle, la multiplicité des individus dont vous avez parlé permet de passer de la finitude, donc qu'on pourrait expliquer par le fait que les ressources sont limitées et que l'homme a besoin de se nourrir pour continuer à vivre. En cela, c'est comme cela que la finitude peut être explicitée chez l'homme. Comment est-ce que cette multiplicité des individus permet de passer de cette finitude à la notion de rareté chez
alors,
Sartre?
Précisément parce que il y a ces contre-finitudes. Finalité qui font que même les meilleures intentions ne permettent pas de produire pour tous. Et en fait, c'est parce que, en réalité, il y a cet aspect que je viens de dire, et il y a aussi le fait qu'à ce moment-là, c'est la qualité de l'unité de cette multiplicité. C'est une unité négative via la matérialité. Et donc, à ce moment-là, ce qui permettra un jour, peut-être, de sortir de la rareté, de toute façon, ce sera une solution politique, c'est-à-dire que d'une unité négative de la multiplicité, nous aboutirions, je mets du conditionnel, à une unité positive.
Alors, qu'est-ce que vous appelez unité négative, unité positive ?
Alors, unité négative, c'est précisément le fait que les besoins des uns et des autres s'affrontent et même se contredisent. Et donc, c'est cet affrontement, c'est cette contradiction qui crée ce que Sartre, il faudrait préciser, mais ce que Sartre appelle la rareté. Et que donc, effectivement, ça voudra dire qu'il faut résoudre un problème politique pour assurer, parce qu'on changera de valeur, pour assurer justement un dépassement de cette rareté.
Alors peut-être que pour y voir encore plus clair, Michel Keil, on pourrait se plonger dans la critique de la raison dialectique de Sartre. Alors il faut un petit peu s'accrocher, mais écoutons ce texte de Sartre.
Dans chacune des tribus, l'homme de la rareté rencontre dans l'autre tribu l'homme de la rareté sous son aspect du contre-homme. Chacun est constitué de telle sorte, par sa lutte contre le monde physique et contre les hommes, que l'apparition d'inconnus lui fait découvrir l'homme sous la forme d'une espèce étrangère. La force de son agressivité, de sa haine, réside dans le besoin, mais il importe peu que ce besoin vienne d'être assouvi. Et dans le combat, ce n'est pas le simple danger de rareté que chaque adversaire veut détruire en l'autre, mais c'est la praxis même en tant qu'elle est trahison de l'homme au profit du contre-homme. Nous considérons donc, au niveau même du besoin et par le besoin, que la rareté se vit pratiquement par l'action manichéiste. C'est à ce niveau également que l'on doit définir la violence comme structure de l'action humaine sous le règne du manichéisme et dans le cadre de la rareté.
Voilà un extrait de la critique de la raison dialectique de Sartre, qui est lu ici par Cédric Fuentes. Alors, ce qu'il faut expliquer, Michel Keil, parce que ce texte est quand même assez compliqué, c'est que ce n'est pas seulement la rareté que l'homme combat, mais aussi la négativité que ce qu'il appelle le contre-homme abrite en lui.
Oui, et aussi en face de lui, parce que la rencontre, justement, elle peut se faire sous le mode « l'autre, c'est l'ennemi », c'est-à-dire c'est celui qui va m'empêcher de survivre, voire d'autres choses, mais c'est l'ennemi, et donc c'est ça le phénomène de la rareté. C'est que je rencontre l'autre...
Comme un ennemi.
Comme un ennemi. Et donc, comme une menace, évidemment, pour ma vie, etc.
Et c'est comme ça que Sartre explique l'apparition de la violence.
Absolument. Absolument. Elle est là, à ce moment-là, constitutive de, on peut dire, de l'histoire humaine, dans la mesure où, pour Sartre, l'histoire humaine, cette histoire humaine, pas l'histoire humaine, je devrais dire, cette histoire humaine, la nôtre, elle se déroule sous le règne de la rareté, dit Sartre.
C'est pour ça qu'il dit que l'histoire humaine, c'est l'histoire de la lutte contre la rareté.
Absolument.
Il faut l'entendre de façon peut-être beaucoup plus totalisante que dans l'économie. C'est l'histoire de l'humanité, ce n'est pas simplement l'histoire de l'économie.
Et ce que vous dites là permet de voir quelle distance il y a avec Marx, justement. Parce que à la limite, Marx, il verrait plutôt ce dépassement dans la sphère de l'économie. Et Sartre, non. Parce que, vous voyez, ça, c'est assez intéressant. C'est que, pour Marx, la rareté, c'est ce qu'il appelle une robinsonnade. Hein, donc
c'est un mythe.
Une histoire qu'on raconte, oui, etc. Et pour lui, c'est un mythe bourgeois. C'est un mythe dont a besoin l'économie classique pour justifier l'économie. Puisque,
pour pousser à consommer toujours plus.
Exactement, le productivisme. Et précisément, regardez... on voit que Marx ne va pas jusqu'au bout de ce que j'appelais au début la dénaturalisation, parce que finalement, quand il définit le communisme, une des caractéristiques essentielles du communisme, c'est l'abondance. C'est-à-dire qu'on est toujours, avec Marx, dans la logique, je dirais, économiste, au sens où, vous voyez, on parle d'économisme.
On parle avec ce paradigme-là.
Voilà. Et donc, productivisme, et c'est parce qu'il va y avoir abondance de biens que finalement, et André Arléan en parlait très bien tout à l'heure, vous voyez.
On va faire réagir
de manière critique.
On va justement réagir, André Arléan. Quel regard est-ce que vous portez sur le concept de rareté chez Sartre?
Je le découvre, donc. Ma première réaction, ce serait d'abord, je vois bien tous les rapports qu'il y a avec ce qu'on a dit précédemment, oui. En effet, autour de la question des relations. Hein, c'est vraiment le point important. Me semble-t-il, c'est un des points qui, pour moi, me semble important. C'est le fait que.
Contrairement à la vision de Valras dont on parlait tout à l'heure.
C'est ça. C'est-à-dire, dans le modèle valrassien, en effet, on est tout à fait dans le modèle qui était décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un modèle d'un individu face aux objets et dans lesquels les relations avec autrui ne jouait pas. Donc cette idée de se placer dans ce que je comprends qu'on appelle la multiplicité me paraît tout à fait bienvenue. Alors moi, ma question, ce serait celle plutôt d'un économiste, c'est-à-dire que il me semble qu'il y a une multiplicité. C'est-à-dire que la manière dont les individus nouent leurs relations dans ces multiplicités, comment est-ce qu'elle est spécifiée? Je dirais que dans le marxisme, on pourrait penser par exemple qu'il y a la féodalité, le communisme primitif, etc. C'est-à-dire qu'il y a des formes sociales très distinctes de cette multiplicité. Donc, est-ce que Sartre en tient compte?
Est-ce que Sartre pense différemment la multiplicité selon qu'on est dans une société de subsistance ou une société capitaliste, par exemple?
Absolument, oui, tout à fait. Ça, c'est certain, parce que justement, un des apports de la critique de la raison dialectique, c'est quand même toute l'analyse des groupes et des collectifs, vous voyez. Donc, ça, c'est tout à fait présent dans la réflexion de Sartre. Mais je dirais, par rapport à ça, vous voyez, il y a un point sur lequel Sartre nous alerte, pas forcément directement, pas forcément de manière explicite, mais si on tient compte, par ailleurs, de ce qu'écrit Simone de Beauvoir, ça nous alerte, à savoir que finalement, le rapport qui est déterminant, c'est le rapport social, c'est-à-dire c'est le rapport aux autres. Et c'est ce rapport aux autres qui donne accès aux choses, c'est-à-dire qui domine le rapport aux autres a accès à la richesse, pour le dire de cette manière, a accès au bien, vous voyez. Et donc, en fait, il faut vraiment cette multiplicité, finalement, elle appelle pour être résolue une, je dirais, c'est un peu une formule, mais ça suffira, une démocratie authentique. Vous voyez? Parce qu'à ce moment-là, peut-être, l'ennemi va-t-il s'évanouir?
Et c'est comme ça qu'on pourrait neutraliser éventuellement la violence. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Aujourd'hui, on commençait à en parler. André Léan, nous sommes évidemment dans une planète finie. Les questions environnementales sont très présentes. L'urgence est là. Comment, selon vous, résoudre ce problème de la rareté qui occupe les économistes, mais aussi les anthropologues, les sociologues depuis bien longtemps maintenant?
Je crois que je tiendrai beaucoup aux réflexions de Saline sur cette question du rapport aux objets et de pensons sa thèse comme quoi, enfin, elle est un peu évidemment. Il est toujours difficile d'intervenir sur des sujets qui sont extrêmement compliqués et on va forcément donner des analyses très schématiques en quelques minutes. Mais cette idée que du désirer peu. De dire que la solution, c'est plutôt désirer peu que de produire plus en fonction des besoins, qui met en avant de son analyse des sociétés d'abondance du paléolithique, me semble un point important. Cette idée de, on pourrait dire, de sobriété dans la consommation. Et on voit que, je dirais la chose suivante, c'est que c'est pas simplement technique. Comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est dans les relations entre les acteurs.
C'est aussi symbolique, c'est aussi transformer les institutions pour que la consommation soit plus synonyme de prestige.
Voilà, des choses comme ça. Mais on voit bien que c'est pas des choses, c'est des très très profondément ancrées dans les acteurs, dans nos mentalités, etc.
Mais ça prendrait du temps.
Oui, c'est quelque chose de cette nature qui demande à être changé.
Et c'est une idée qui est reprise aujourd'hui par les partisans de la décroissance. On voit que c'est des idées qui sont de plus en plus présentes dans le débat public.
Oui,
André,
absolument. Oui. Et notez aussi, pour boucler sur ce qu'on a dit au départ, qu'il y a une chose. Donc, ce qu'on voit, c'est plus tellement la question de la rareté relative, c'est la question de la rareté absolue, la question de la rareté des ressources. Et ça, il faut noter que les économistes, en fait, la première fois dont ils en parlent, c'est Stanley Jevons avec ce qu'on appelle la question du charbon.
En à la 1800, fin du 19e siècle.
C'est ça, en 1865, il commence à penser qu'il y a peut-être un épuisement possible du charbon. C'est vraiment absolument génial comme pensée. Mais que les économistes, je dirais pour aller vite, mais vous en discuterez à ce propos dans les prochaines séances, c'est que ils n'ont jamais su véritablement traiter la question de la rareté absolue.
Et l'épuisement des ressources concrètes.
C'est ça, ils n'y arrivent pas. La rareté relative, ça peut donner lieu à des arbitrages, etc. La question de la rareté absolue, je pense que ça demande de changer en fait de paradigme.
Eh bien, on en parlera justement demain et notamment de la question du pétrole. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi aujourd'hui de revenir sur l'initiative de plusieurs députés qui souhaitent interdire certains vols domestiques jugés trop polluants.
Absolument, une proposition déposée par le député insoumis François Ruffin et la présidente de Génération Écologie Delphine Bateau dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités actuellement en examen au Parlement. Cet amendement vise ainsi à réduire les pollutions liées à l'aviation en supprimant, je cite, les liaisons aériennes intérieures pouvant être réalisé par transport ferroviaire en une durée inférieure ou égale à 5 heures. Leur logique est donc assez simple, arrêter de prendre l'avion pour faire un Paris-Bordeaux ou un Paris-Lyon quand l'option ferrée est presque aussi rapide. En l'occurrence, une heure d'avion pour rejoindre la capitale de la Gironde contre un peu plus de 2 heures pour le train à grande vitesse. Mais c'est sans compter le temps de déplacement vers les aéroports bien souvent excentrés qui mettent alors presque à égalité l'avion et le TGV. Or, si la grande vitesse a permis d'abolir les distances et de mettre un certain nombre de grandes villes à quelques heures de la capitale, le trafic aérien n'a cessé quant à lui de se développer vers ces mêmes destinations. Il a notamment été porté par le prix souvent plus faible des vols qui ne sont, rappelons-le, toujours pas taxés sur le kérosène.
Le problème, c'est que l'empreinte carbone de ces courts courriers est loin d'être la même que celle des voies ferrées.
Exactement, comme le pointe la direction de l'aviation civile, un trajet Paris-Bordeaux en train émet ainsi 1,4 kg de CO2 par passager contre 72 kg pour le même voyage en avion, soit une consommation 52 fois plus importante que les deux députés entendent limiter autant que possible. D'après France Info, ce serait ainsi 72 vols quotidiens qui pourraient être supprimés avec l'adoption d'un tel amendement. Mais il semblerait que cette prise de conscience dépasse largement les bancs de notre hémicycle. Les députés français se sont ainsi appuyés sur l'expérience néerlandaise où les députés verts de GroenLink ont réussi à former une coalition pour interdire les vols Bruxelles-Amsterdam, qu'à peine 200 km séparent. Comme l'explique le ministre néerlandais des chemins de fer, l'objectif est d'inciter les passagers à prendre le train qui doit redevenir une alternative attrayante et simple à l'avion.
Mais au-delà de ces initiatives parlementaires, Arjuna, on a également vu émerger des initiatives citoyennes pour alerter sur le rôle néfaste de l'avion sur l'environnement.
Exactement. On a notamment vu fleurir ces derniers temps un terme aux consonances nordiques, le Flixcam, qui vise à rendre compte de la défiance montante de certains citoyens envers le transport aérien. Signifiant littéralement la honte de prendre l'avion, ce phénomène parti de Suède tend à se développer chez un nombre croissant de consommateurs soucieux de réduire leur empreinte écologique. Le gestionnaire d'aéroport Swedavia a ainsi enregistré une chute de près de 6% des vols domestiques en Suède et le phénomène ne cesse de s'amplifier.
Le sujet a même été au cœur du dernier congrès de l'Association internationale du transport aérien qui se tenait à Séoul du 1er au 3 juin dernier.
Oui, et le président de l'association, l'ancien président d'Air France, Alexandre de Juniac, s'est d'ailleurs dit très inquiet de ce climat actuel, arguant des efforts déjà mis en œuvre par le secteur pour réduire les émissions de CO2 et mettant en garde contre les dangers d'une telle évolution pour les emplois liés à l'aviation, soit tout de même plus de 100 000 emplois directs en France. Un risque dont les porteurs de l'amendement sur les vols intérieurs sont bien conscients, comme le rappelle Delphine Bateau. Nous savons que la sortie des énergies fossiles aura des conséquences pour l'emploi. Il s'agit donc de les anticiper pour que cette transition se fasse le plus sereinement possible. Une question de désir à réduire peut-être.
Some fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you through.
On se quitte avec Depeche Mode, Precious. Merci beaucoup André Orléans et Michel Kyle de nous avoir accompagnés dans les méandres de ce concept de rareté. Demain, nous parlerons de la raréfaction du pétrole, donc dans un monde encore dopé aux hydrocarbures. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.